RVA.
Alors que la France est championne d'Europe en matière d'abandon, pour constater ce fléau, nous nous sommes rendus au refuge de l'association protectrice des animaux de Gerza, où nous avons retrouvé Mathilde Salé, la chargée de communication, l'occasion aussi d'en apprendre un peu plus sur le fonctionnement du refuge au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous présenter le refuge de l'APA ?
L'APA, c'est un refuge qui a été créé en 1956, qui a d'abord été basé sur Clermont-Ferrand. C'était une petite association créée par des petites dames âgées qui voulaient sauver les chats. Aujourd'hui, on a bien grandi parce qu'on a 15 salariés, on a environ 700 adhérents, on a une cinquantaine de bénévoles qui tournent régulièrement. Donc on a un refuge qui accueille les chats, les chiens. Des fois, on accueille d'autres animaux comme des lapins ou des hamsters, par exemple. En ce moment, on a 60 chats et à peu près 70 chiens. Et on s'occupe de plusieurs choses, donc bien entendu du bien-être de nos pensionnaires, des adoptions, mais aussi on s'occupe de cas de maltraitance. Donc on va mener des enquêtes et on va récupérer ou non des animaux par rapport à ça, et de plein d'autres de choses liées au bien-être animal.
Et qu'est-ce qui vous permet de faire vivre le refuge ?
Alors le refuge fonctionne uniquement sur les dons. On est une association donc à but non lucratif, donc on tourne sur les dons, sur les adhésions. On fonctionne aussi grâce au parrainage, donc des personnes peuvent parrainer un animal, un chat ou un chien. Quand c'est un chien, ils peuvent même aussi venir le promener, s'occuper de lui, le caresser, etc. Pareil pour les chats. On fonctionne aussi pas mal avec des legs, donc des personnes âgées qui vont décider de léguer une partie de leur héritage au refuge. Et on a quelques aides aussi, et on travaille en convention avec plusieurs fourrières du Puy-de-Dôme, 132 fourrières, et donc ces conventions aussi nous rapportent un petit peu d'argent pour qu'on puisse fonctionner.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la journée type d'un bénévole ?
Alors ça dépend complètement de ce qu'il veut faire, parce que les bénévoles, on les laisse libres bien entendu de comment ils veulent nous aider. Donc ça peut être un bénévole qui vient le matin et qui va aider à nettoyer les cages ou nettoyer les chatteries. Ça peut être aussi un bénévole qui vient juste caresser les chats ou les chiens, s'en occuper. Les bénévoles peuvent aussi travailler les chiens dans les parcs derrière, donc ils peuvent aussi vraiment leur apprendre à se sociabiliser, à apprendre les ordres de base, etc. Donc c'est un travail qui est très important aussi pour l'adoption derrière. Mais on a aussi des bénévoles qui vont aider au secrétariat, qui vont aider à la communication, qui vont faire des photos, qui vont... Voilà, donc c'est très très varié, il n'y a pas vraiment de journée type. Ils ont un petit calendrier sur lequel ils peuvent s'inscrire, et ensuite ils sont libres de faire ce qui leur fait envie. Nous, on leur donne les missions en fonction de ça.
Comment faire pour parrainer un animal ?
Les parrainages vous aident à vivre, puisqu'un parrainage, c'est 10 euros par animal, par mois. Donc pour parrainer un animal, il faut venir au refuge, et avec nos soigneurs, on va décider de l'animal qui vous correspond le mieux. Donc si c'est un chat, vous pouvez choisir le chat, parce que généralement, c'est un animal qu'on ne va pas faire sortir. Et si c'est un chien, vu que vous avez la possibilité de le promener, qu'il y a la possibilité de même de l'emmener chez soi pendant une nuit ou une journée, etc., on va vraiment essayer de faire des couples, de créer des couples avec les animaux. Donc ça dépend de plein de choses, du mode de vie du promeneur, de s'il a l'habitude des chiens. Par exemple, on ne va pas donner un malinois ou un chien qui va tirer fort à quelqu'un qui n'a jamais promené un chien. Si c'est une personne qui aura envie d'aller courir dans la montagne ou juste des petites promenades calmes autour du refuge, etc. Donc on va vraiment essayer de créer des couples. Et puis ça dépend aussi du coup de cœur, c'est-à-dire qu'on ne va pas imposer un chien à une personne. C'est aussi comme quand on adopte, quoi. Et c'est des couples d'ailleurs qu'on va essayer de créer à l'adoption aussi, puisqu'on ne refourque pas les animaux en disant « il faut qu'on les fasse adopter absolument ». On fait vraiment attention à la création de relations entre l'adoptant et l'animal adopté pour que ça fonctionne derrière.
Est-ce qu'un temps d'adaptation est laissé entre l'adoptant et l'adopté pour vérifier la compatibilité ?
Il y a un temps d'adaptation, oui, bien sûr, avant l'adoption, qu'on appelle famille d'accueil, en fait. Donc l'animal est en famille d'accueil pendant un mois. Et après, on valide l'adoption ou non en fonction de comment ça se passe. Donc ça peut varier d'une semaine à un mois en fonction de l'animal, bien sûr. Mais oui, bien entendu, c'est important, puisque des fois, ça ne fonctionne pas. Et c'est parfois pas du tout la faute de l'adoptant. Ça va être un chat qui ne va pas supporter d'être dans telle maison, ou un chien qui va fuguer, qui ne va pas s'entendre avec l'animal de la maison, etc. Donc c'est important d'avoir ça, et que ce soit assez court pour pas que le traumatisme du retour au refuge soit trop violent.
Vous avez une petite cabane à dons au refuge. Qu'est-ce que les personnes peuvent déposer à l'intérieur ?
Alors ça peut être tout et n'importe quoi, c'est vraiment à votre bon cœur. Et alors ça peut être de la nourriture. On a souvent besoin de pâtés pour chats, c'est la chose dont on manque le plus. Ça peut être des produits d'entretien, ça peut être des griffoirs, des lits, des couvertures. On prend tout, tant que c'est pas tout cassé et que ça peut servir à nos animaux.
Et avez-vous autant d'abandon que les années précédentes ?
Oui, malheureusement, l'abandon, c'est encore quelque chose qu'on remarque beaucoup. C'est quelque chose qu'on a remarqué post-confinement. On l'avait craint. C'est arrivé un peu plus tard que prévu, mais l'année dernière, on avait un refuge qui était plein. L'été dernier, c'était monstrueux. Et là, cette année, en 2021, on a eu 337 chats qui sont rentrés en abandon, ce qui est énorme parce qu'on était plutôt autour de 250 les autres années. Et en chien, on en a eu 89 en 2021, ce qui est une baisse par contre, donc ça, c'est une bonne nouvelle. On était plutôt autour de 100-150 les autres années. Mais on note une hausse significative des abandons, malheureusement. Et encore une fois, c'est pas une légende, avant l'été, les gens abandonnent plus.
Quels sont les abandons les plus fréquents que vous retrouvez au refuge et pour quelles raisons arrivent-ils ?
Les abandons, on a de tout. Il y a l'abandon dans la forêt, accroché à un arbre. Il y a l'abandon de personnes qui ne peuvent pas faire autrement et qui vient avec son animal et qui le dépose et qui est en larmes et qui nous brise le cœur. Il y a aussi l'abandon devant le portail, bien sûr. Et de plus en plus, malheureusement, des gens qui n'assument pas du tout et qui vont dire « j'ai trouvé ce chien, je vous le pose ». Et en fait, les animaux sont pucés et quand on regarde, c'est au nom de la personne. Donc en plus, on ne peut pas nous duper par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment en augmentation. Donc c'est dur. Le plus souvent, les personnes qui vont venir déposer leur animal, c'est parce qu'ils vont déménager. C'est souvent des déménagements, ils vont passer dans un endroit plus petit, ils vont passer en appartement alors qu'ils étaient en jardin et ils peuvent vraiment plus garder leur animal. Il y a aussi pas mal d'abandons, alors là par contre ça va être des gens qui vont pas réaliser qu'un animal ça grandit ou que finalement ça coûte cher ou qu'ils peuvent pas partir en vacances aussi facilement. Et donc là, à part faire de la prévention et leur dire et leur répéter constamment que c'est une responsabilité d'avoir un animal, que c'est un engagement, que c'est pas sur 2 ans mais ça peut être sur 15 ans, 20 ans en fonction de l'animal qu'on va adopter. Et donc d'avoir vraiment conscience de ça. C'est très important, donc nous, le conseil qu'on donne le plus, c'est soyez conscients et réfléchissez surtout vraiment avant d'adopter. Un animal n'est pas un cadeau, un animal n'est pas un petit coup de tête comme ça, c'est vraiment un engagement sur de longues années.
Est-ce que la crise sanitaire a impacté le nombre d'abandons au refuge ?
Alors ça, c'était une crainte qu'on a eue. Il y a eu effectivement pas mal d'adoptions. Et en fait, non, on a eu peu de retours d'adoptions Covid. On a eu plus de retours l'été, 2 ans plus tard, parce que les gens pouvaient enfin partir en vacances. Mais oui, les gens ont beaucoup adopté, mais les gens n'ont pas beaucoup ramené au final. Donc c'était une très agréable surprise et je crois que c'est comme ça dans tous les refuges.
Avez-vous eu l'occasion d'accueillir des animaux réfugiés en raison de la guerre en Ukraine ?
Alors nous, on n'en a pas accueilli. On a aidé à notre manière avec des dons de nourriture, etc. Mais on n'a pas eu de, il n'y a pas eu trop de zones d'accueil dans le coin. Il y a beaucoup de refuges qui sont positionnés, des gens qui sont sur place, qui essayent de faire sortir les animaux. Donc c'est vraiment compliqué. Mais il y a aussi vraiment une énorme chaîne de solidarité. Des pays autour, même de la France, etc., ce qui est super. Et il y a beaucoup d'animaux qui sont sortis et qui sont rassemblés avec leurs propriétaires. Donc on a bon espoir quand même sur cette chaîne de solidarité. Ça redonne un peu espoir en l'espèce humaine. Donc nous, s'il y a la possibilité, bien sûr, d'en accueillir, ils seront les bienvenus au refuge sans hésitation.
Comment agissez-vous dans le cas de maltraitance ?
Alors, pour les maltraitances, donc soit on reçoit des appels, soit on reçoit des messages. Alors, il faut savoir que ça n'est pas anonyme, c'est-à-dire que nous, on a besoin d'avoir les coordonnées de la personne. Et donc, quand on reçoit une déclaration de maltraitance ou de mauvais traitement, on va mener une enquête, on a toute une équipe pour ça. On va mener l'enquête sur place. Si l'enquête se révèle effectivement être un cas de maltraitance qui a besoin de récupérer l'animal, on va récupérer l'animal. Donc, on travaille aussi très souvent en collaboration avec la police et on en récupère malheureusement beaucoup trop régulièrement. Donc soit ça va être des maltraitances comme des gens qui ont 30 chats, 3 chiens et 40 perruches dans la maison, ce qu'on appelle un peu le syndrome de Noé. Et bien là, on est obligé de les récupérer parce que bien entendu, ils sont pas bien. Et ça va être sinon des animaux battus, ça va être des animaux morts, ça va être des animaux attachés trop court dehors, sans nourriture. Et on en récupère énormément et ça fait mal au cœur parce qu'il y en a de plus en plus.
Quelle est la marche à suivre pour les personnes qui souhaitent adopter au sein du refuge ?
Futur adoptant peut déjà commencer à faire son repérage sur le site internet, mais sinon le plus simple c'est vraiment de venir au refuge. Il faut savoir qu'il faut compter entre 30 et 45 minutes minimum, puisque c'est long, puisque comme je le disais un peu plus tôt, on ne fait pas des déplacements pour faire des placements. On veut vraiment créer des couples, donc on va poser des questions à l'adoptant sur son mode de vie, sur sa maison ou son appartement, s'il y a un jardin, s'il y a un extérieur, s'il travaille beaucoup, enfin voilà, tout ce qui pourrait impacter l'animal en fait. Et ensuite, on va aussi laisser l'adoptant se balader, rencontrer les animaux par lui-même, et il y a un accompagnement par la suite. On va échanger, on va voir si c'est un chien, on va le sortir dans le parc avec. Parfois, on repart pas avec son animal directement parce qu'il peut y avoir encore des vaccins à faire, des soins. Souvent, quand c'est un chien, on fait plusieurs visites pour être sûr, pour faire des petites sessions d'entente, etc. Et puis après, si tout se passe bien, l'adoption se finalise au secrétariat. Il y a des tarifs d'adoption. Donc ça va de 120 euros pour un chat à 240 euros pour une chienne femelle. Il faut savoir que nos animaux sont tous stérilisés, pucés, vaccinés. Donc, il n'y a rien à faire niveau soins dès l'arrivée.
Quel conseil donneriez-vous avant l'adoption ?
Alors, on essaye de faire de plus en plus de prévention. Alors, j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus conscients quand même que c'est une responsabilité et que c'est un être vivant. Mais on essaye de vraiment faire comprendre ça, que c'est une responsabilité, qu'un animal, c'est un coût. Il y a des gens qui viennent, je voudrais adopter un vieux chat parce que c'est moins cher. Non. Un animal, c'est vraiment un coût. Ça coûte cher en nourriture, en soins, en vétérinaire, en litière, voilà. Ça a un coût en temps aussi, énorme. Et on en parle sur notre site, on essaie d'en parler sur nos réseaux, vraiment communiquer là-dessus. Mais je sens que les gens sont quand même de plus en plus conscients de tout ça.
En termes de budget, quel est le coût à peu près d'un animal ?
Pour un chat, il faut compter entre 100 et 200 euros par an, s'il n'est pas malade, par exemple. Pour un chien, c'est pareil. Ça compte les vaccins, ça compte le vermifuge, ça compte l'antipuce, l'antitique. Et à côté de ça, il y a la nourriture, où on compte pareil, à peu près une centaine d'euros par mois, s'il y a plusieurs chats, par exemple. Donc oui, ça varie, je dirais, entre 150 euros par mois et, s'il est très malade, 400, 700, 1000 euros.
Et quel genre d'événement organisez-vous pour aider à l'adoption de vos pensionnaires ?
On fait au moins 3 journées portes ouvertes par an, où on peut accueillir les gens qui peuvent rencontrer nos animaux, venir découvrir le refuge aussi, parler aux salariés, parler aux bénévoles, voilà, donc ça nous fait de la visibilité. Et on essaye de participer là de plus en plus, de s'ouvrir aussi sur d'autres événements. On a participé à un canicross, qui n'avait pas longtemps, avec l'association Canivulquin, où certains de nos pensionnaires ont pu aller courir, et il y en a qui ont été adoptés. Il y a eu un grand concert caritatif de la Team Goldman, qui a pu nous rapporter de l'argent et aussi donner de la visibilité. Donc voilà, on essaye aussi de se placer sur d'autres événements pour être le plus visible possible pour nos animaux.
Que pensez-vous de la mutation génétique des animaux pour des questions esthétiques comme par exemple le mélange entre un bulldog et un carlin ?
Je suis ravie de voir qu'il y a des lois dans d'autres pays qui sont en train de passer, et j'espère qu'elles vont arriver en France, qui interdisent ce genre de mutation, ce genre de transformation des chiens juste pour de l'esthétique, juste pour les vendre plus cher, juste pour de l'élevage. Et il y a de plus en plus maintenant de carlins qui sont en train de revenir à leur état naturel comme ils étaient initialement. Et bien sûr, j'espère, et je pense pouvoir parler au nom du refuge en disant ça, que ça va s'arrêter. Et que le but, c'est que ces animaux puissent être heureux et pas élevés comme des petites bêtes de canapé juste pour de l'esthétique. Ça marche aussi pour les mutilations, les oreilles coupées, les queues coupées, etc. Bien sûr, on est contre ça et on espère que ça va s'arrêter et qu'il y a plus de lois qui vont passer par rapport à ça.
Si vous souhaitez adopter un animal, rendez-vous à l'appât de Gerza, ouvert tous les jours de 10h à midi et de 14h à 18h sauf le mardi, ou rendez-vous sur le site appanimo63.org.